On m'a demandé de vous parler de la croissance économique contre la charité et contre la création. Le titre est affiché derrière moi. C'est d'abord une joie pour moi d'intervenir ici à la Sainte-Baume, à l'orée de cette forêt merveilleuse, cette forêt unique, mythique. Pouvait-on rêver mieux pour nous entretenir de la création sous le regard de Dieu? Une forêt que l'on dit primaire, relique, c'est-à-dire qu'elle est restée préservée de l'action humaine depuis la plus haute antiquité, parce que c'était une forêt sacrée. Et elle nous évoque bien la création telle qu'elle est sortie des mains de Dieu, non faite de mains d'hommes. Pour nous, c'est aussi le jardin de Marie-Madeleine qui nous ramène à un autre jardin, celui du matin de Pâques, où Marie-Madeleine, la première, fait la rencontre du Christ ressuscité au premier jour de la création nouvelle. Et dans l'évangile de Saint Jean, Marie ne reconnaît pas tout de suite Jésus. Elle le prend pour le jardinier, Jean 20, verset 15. Et c'est vrai, il est vraiment jardinier. C'est lui, le Fils de Dieu, par qui tout a été fait, qui a fait ce jardin de la création pour y placer Adam, pour qu'il y travaille. Genèse 2, 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Dans sa conférence inaugurale, mercredi soir, M. Salamito a bien rappelé que le travail est une réalité d'avant le péché originel, une réalité voulue par Dieu comme telle et comme quelque chose de bon. Ce n'est qu'après que le travail est marqué par le péché, comme toute la création, y compris nous. Tu travailleras à la sueur de ton front. Ça, c'est après. Mais avant, il y a le travail, sans la sueur du front. Pourtant, même blessé par le péché, le travail conserve quelque chose de sa bonté originelle. La nature n'est pas anéantie. Elle est blessée, mais pas anéantie. Et le travail reste même une image de Dieu. Car figurez-vous que Dieu lui-même travaille. Et là, j'ai en tête un très beau discours de Benoît XVI qu'il nous faut sans cesse relire au Collège des Bernardins à Paris. Ce n'est pas parce que c'est français, mais c'est un de ses très bons discours le 12 septembre 2008, où il disait effectivement que toute la conception du travail dans l'Occident est marquée par le monachisme, mais aussi par ce verset biblique, le fait que Dieu travaille. « Mon Père est à l'œuvre, moi-même j'œuvre, le Christ travaille. » Il est le charpentier. Et donc la création est l'œuvre de ses mains, une œuvre sans intermédiaire. Et ça, pour les Grecs, c'est une folie, un scandale. Il aurait fallu des demiurges, multiplier les intermédiaires entre Dieu et puis la descente dans le concret. Non, non, directement, Dieu agit dans la création. Il est ce qu'il y a de plus concret. Et Dieu façonne aussi Adam comme un travail avec le geste du potier, un geste d'artisan. L'homme est donc créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance aussi par son travail. Et de plus, Dieu a fait un monde qui est bon, et même très bon, mais pas un monde parfait, de sorte que c'est un monde dans lequel Dieu peut ajouter sa touche personnelle, sa touche humaine. Il peut humaniser le monde, il peut y mettre sa place. Si bien que par le travail, l'homme acquiert à la fois la dignité d'être image de Dieu, mais aussi d'être collaborateur de Dieu. Et ça, je pense que ce n'est pas rien pour une conception chrétienne du travail qui remonte à la source. Ensuite, il y a le péché. On m'a aussi demandé de vous parler de la croissance économique. Alors là, désolé, mais je ne suis pas économiste. Il y a beaucoup de gens ici beaucoup plus compétents que moi. Monsieur Nicolas Bavrez est intervenu hier. Tout à l'heure, on nous a dit qu'on ne nous en parlerait pas. Bon, il y avait la compétence pour en parler. Moi, je vais le prendre à partir du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire la théologie, à partir de l'Écriture, la parole de Dieu. Est-ce que la Bible nous parle de croissance? Oui, non, peut-être. Bien oui, et en fait, dès le début, au commencement, dès les premières pages, premier chapitre, premier récit de la création. C'est la parole de bénédiction qui est adressée d'abord aux animaux, au cinquième jour, puis aux êtres humains, sixième jour. Genèse 1, 21-23, Dieu créa selon leurs espèces les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont, viennent, foisonnent dans les eaux, et aussi selon leurs espèces tous les oiseaux qui volent. Dieu vit que cela était bon, Dieu les bénit par ses paroles, soyez féconds, multipliez-vous. Alors, où est la croissance là-dedans? Dans la Vulgate, c'est crescite et multiplicamini, croissez et multipliez. Et on peut tout à fait traduire comme cela, croissez. Donc la croissance, elle est bien là. Croissez et multipliez, remplissez les mers, les oiseaux que se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, un matin, cinquième jour. Et puis plus loin, Genèse 1, 26, pour l'homme, sixième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Elle est là, l'image et la ressemblance dont j'ai parlé, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez. C'est la même parole, crescite, multiplicamini, croissez et multipliez. Emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Donc ce verset 28 est vraiment au cœur de mon intervention, qui nous parle de croissance, mais aussi de domination. Notez qu'avant d'être un commandement, c'est d'abord une parole de bénédiction, une parole de vie, une parole qui dit le bien et qui fait le bien en le disant. Mais c'est aussi un commandement, ça ne s'oppose pas, c'est les deux. C'est une parole qui dit la loi de notre être et que c'est bien. Et en même temps, elle nous donne une raison d'être, une mission à accomplir. Un bien à accomplir pour accomplir ce que nous sommes, pour devenir vraiment ce que nous sommes, croissez et multipliez. Notez ensuite que cette parole, croissez, multipliez, est identique pour les animaux et pour les hommes, mais qu'il y a un spécifique humain qui n'est donné que pour les hommes, une vocation qui leur est propre au sein de la création. C'est la suite du verset 28. Emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Donc là, l'homme acquiert une place spécifique dans la création. Un rapport de soumission et de domination qui peut faire difficulté. Est-ce que cela va s'exercer au service de la création ou bien à son détriment? C'est toute la question qu'il nous faut examiner. Je dois donc vous parler de cela, de la relation entre la croissance et la création. Et le titre qui m'a été donné, je ne l'ai pas choisi, les met d'emblée en opposition. La croissance économique contre la charité, contre la création. Pourtant, du point de vue étymologique, les deux ne devraient pas s'opposer. L'économie, l'écologie, tous les deux, c'est l'oikos en grec. La maisonnée, la maison, le lieu où on habite avec tous ses habitants et tous ses biens. La connaissance de la gestion de la maison commune de l'humanité, tout cela ne devrait pas s'opposer. Et dans le plan de Dieu, dans le plan divin de la création avant le péché, de même, cela ne s'oppose pas. Cette opposition est une marque du péché. Mais avant le péché, au chapitre 3, dès le chapitre 1er, il y a question de la croissance, croissez et multipliez, Genèse 1, 28, et d'autre part le travail, au chapitre 2, Genèse 2, 15, le Seigneur prit l'homme, le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ces deux réalités, croissance et travail, sont donc des réalités d'avant le péché, des réalités bonnes et des réalités qui vont de pair. La croissance n'est pas simplement biologique, croissez, multipliez, il y a des enfants, des progénitures, oui, c'est cela aussi, mais elle est aussi économique. Il y a une croissance par le fait que l'homme travaille le jardin, hein, et il est appelé à faire croître ce jardin aussi, qui reçoit ce commandement de la vie aussi. Mais la croissance, finalement, doit être aussi spirituelle. Dans Genèse 15, le Seigneur prit l'homme, le conduisit dans le jardin pour qu'il le travaille et le garde. En français, c'est évident que « le pronom renvoie au jardin, mais pas en hébreu. En hébreu, c'est pas le même genre. C'est comme si l'on disait « il le mit dans le jardin pour qu'il la garde et la travaille ». Ah bon, alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça peut être que ce féminin qui sort de son chapeau? Pour les rabbins, il s'agit alors de la Torah. On le met dans le jardin pour qu'il travaille la Torah et qu'il la garde. Travailler et garder la parole de Dieu. Comment on fait pour la garder? En la mettant en pratique. C'est cela, garder les commandements. Donc cette croissance n'est pas simplement biologique, économique, elle est aussi morale et spirituelle, en un mot intégrale. En nature et en grâce. Je disais au début de mon intervention que la Sainte-Baume est un beau lieu pour parler de tout cela, de l'écologie. Je lisais avant-hier cette phrase de Sylvain Tesson à propos de la Panthère des Neiges. L'écologie, c'est d'abord montrer la beauté. Pas seulement, mais enfin, c'est un beau commencement. Et la Sainte-Baume est bien placée pour ça, comme forêt primaire, forêt relique, forêt sacrée, jardin de Marie-Madeleine. Mais j'ai une raison aussi plus personnelle de vous parler de cela ici, Car c'est bien ici que j'ai commencé à travailler ces questions à partir de la théologie de la création. Quand je suis arrivé ici, il y a longtemps maintenant, en 2009, il me paraissait impossible de ne pas affronter ces questions et y réfléchir. Et j'ai commencé à me documenter, à proposer à la librairie des ouvrages sur la théologie de la création, sans grand succès, je dois dire, à l'époque. Mais ça m'a permis de collaborer avec l'Observatoire sociopolitique, qui organise aussi ces journées, sous la houlette de Mgr Rey, et de préparer une lettre pastorale de Mgr Rey sur l'écologie. On était avant Laudato Si, c'était encore assez précurseur, assez neuf, et dans le monde catholique, ça faisait un peu encore scandale. On a publié ça sous la forme d'un petit livre, 2012, « Peut-on être catho et écolo ?» Bon, la réponse, ça n'a pas non plus été un grand succès de librairie. Mais la réponse positive, ça nous paraît évident aujourd'hui, ça ne l'était pas à l'époque. Pour de nombreux catholiques, l'écologie, c'était forcément extrême-gauche ou néo-païen, et parfois les deux. Pourtant, on peut vraiment offrir une vision chrétienne. Maintenant, j'espère que c'est évident pour tous. Et cela fait partie de notre patrimoine depuis toujours, c'est la théologie de la création. Un patrimoine négligé, un patrimoine qu'il nous faut nous réapproprier, et de fait, on le fait de plus en plus. L'Église n'est pas en retard sur ces questions. Elle a 2000 ans d'avance, voire davantage, la Genèse. En 2015, donc, le pape François publie sa lettre Laudato Si, qui a marqué une petite révolution pour les chrétiens. Pourtant, ça n'avait rien de révolutionnaire. On l'a dit, la grande encyclique, c'était plutôt Benoît XVI, Caritas in Veritate. Je suis assez d'accord. Et comme j'en avais un peu assez que tous les journalistes nous disaient « Enfin, l'Église nous parle d'écologie, c'est la première fois », j'ai sorti ce petit livre de 600 pages pour faire un dossier de 50 ans, 50 textes, pour montrer que ça fait 50 ans que l'Église nous en parle. On devait être un peu sourd parce que ça n'imprimait pas, c'est sûr. Mais un des premiers textes que je montre, c'est déjà 1970, à la FAO, le pape Paul VI, qui nous parle d'une catastrophe écologique. Et il y a d'autres textes. On peut les multiplier. Et donc le but était de montrer que François n'était pas le premier, qu'il n'était pas révolutionnaire, mais qu'il ne faisait que prolonger une ligne de pensée qui était déjà celle de Benoît XVI, en son temps qu'on appelait déjà un pape vert, mais aussi de Jean-Paul II, ce qui était moins connu, mais Jean Baster l'avait déjà repéré, et puis même Paul VI. Au fond, on a un magistère écologique qui se précise, qui maintenant s'affirme, qui est davantage reçu qu'il ne l'était, mais ce n'est pas une innovation d'un pape latino-américain jésuite. Cet ouvrage sur les papes et l'écologie m'a valu à Rome d'être sollicité pour faire partie d'un petit groupe universitaire de programme des universités pontificales, délivrant un certificat, un joint diploma, sur Laudato Si, un diplôme en écologie intégrale. J'en ai fait partie pendant 5 ans, ensuite je me suis retiré, je considérais que je n'étais pas vraiment spécialiste, c'était plutôt un hobby pour moi, et puis surtout je trouvais que ce programme manquait souvent de recul critique par rapport aux attaches idéologiques, voire néo-païennes, que l'écologie peut toujours comprendre aujourd'hui. Et il faut faire preuve de discernement. Même si François n'en parle plus de cela dans Laudato Si, Benoît XVI le signalait à plusieurs reprises dans Caritas in Veritate, numéro 48, aussi dans son message pour la paix du 1er janvier 2010, qui est intégralement sur la question de l'écologie, au numéro 13. Donc il faut faire preuve de discernement, tout n'est pas compatible avec la foi chrétienne, avec la révélation biblique, il y a même, encore aujourd'hui, une écologie anti-chrétienne. Les chrétiens souvent l'ignorent, mais nous sommes attaqués parfois. Il y a une écologie qui parfois rend responsable les chrétiens du problème écologique, judéo-chrétien en fait, parce que c'est la Bible. Et c'est justement ce verset par lequel j'ai commencé, au commencement. L'homme qui reçoit cette mission, croissez, multipliez, mais le spécifique humain, soumettez la terre, dominez les animaux. Pour de nombreux écologistes, pardon, le problème vient justement de ce verset, Genèse 1, 28, et surtout, la fin du verset, emplissez la terre, soumettez-la, dominez. C'est un verset qui place d'emblée l'homme au-dessus de la création, et qui a l'air de fonder un anthropocentrisme radical. Et cet anthropocentrisme radical serait, pour ces écologistes qui nous accusent, justement, la racine profonde de la crise écologique, la racine du rapport humain de domination à la création, et non pas de service de la création. Et donc le judéo-christianisme est mis en accusation, jugé à lui seul responsable et coupable de la crise écologique. Cette accusation a revêtu même une forme élaborée, académique, dans une célèbre conférence de Lynn Townsend White Jr., publiée en 1966 dans une célèbre prestigieuse revue américaine, Science, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, en français, les racines historiques de notre crise écologique. Ça a été republié récemment en 2019 au PUF par Dominique Bourg, traduction de Jacques Greenwald. Ce texte est rapidement devenu un lieu commun de la pensée écologique, comme le soulignait déjà René Dubos seulement 6 ans après cette conférence. Il dit « Valable ou non, la thèse de White mérite l'attention car elle est devenue article de foi pour nombre de conservationnistes, écologistes, économistes et même de théologiens. » Lynn White n'est pas un théologien ni un économiste, c'est un spécialiste de l'histoire de la philosophie médiévale et en particulier de la question du travail. Quelle est sa thèse en 2 mots? Pour lui, le problème écologique vient d'un nouveau rapport de l'homme à la nature qui comprend la connaissance scientifique comme un pouvoir technique sur la nature, ce qui va donner la technoscience, et selon la conception d'abord de Francis Bacon. Or, cette science occidentale qui fait problème, elle est occidentale. C'est un fait, mais elle est aussi en droit, parce qu'elle puise ses principes dans la théologie chrétienne, et plus spécifiquement, pour lui, Lynn White, dans la théologie occidentale, sans laquelle une telle science n'aurait pas été concevable. Donc ce n'est pas juste un accident qu'elle se soit développée là, c'est vraiment le fruit d'une longue évolution. D'abord l'idée que le monde a un commencement, que la marche du monde est guidée par un principe de progrès, et non pas un éternel retour, comme le cycle des saisons, eh bien, ça donne un progressisme. Ensuite, l'anthropocentrisme, qui ne saurait se trouver à un tel degré dans aucune autre religion. Le verbe s'est fait chair, ça donne une dignité à l'homme incommensurable, une dignité infinie, même, nous dit une récente déclaration de la doctrine de la foi. Et puis, c'est enfin le fruit tardif de la séparation de l'Occident et de l'Orient. Pour lui, la théologie grecque était plus contemplative, alors que la théologie latine est plus volontariste. Et donc, dans tout ce contexte, se développe une science en milieu occidental, qui est particulière. Lynn White ne retient pas ici la distinction entre le monde catholique et le monde protestant, qui va marquer beaucoup le capitalisme, comme Max Weber va le montrer avec son éthique du capitalisme. Dans son édition de 2019, Dominique Bourg résume cette conférence en 4 thèses. Donc juste pour reprendre, première thèse, l'impact de nos activités sur la nature a changé d'échelle avec l'industrialisation. C'est la conséquence du mariage des sciences et des techniques, la technoscience, dans l'Europe du XIXe siècle. Deuxième thèse, cette suprématie des sciences et des techniques européennes résulte en fait d'une longue évolution qui plonge ses racines au Moyen-Âge et avec une très longue et nouvelle relation à la nature. Troisième thèse, ce nouveau rapport au travail et à la nature trouve son explication, et ne la trouverait pas autrement, dans l'anthropocentrisme typique du christianisme latin occidental, par opposition pour lui au christianisme grec oriental. Quatrième et dernière thèse, la crise écologique ne peut pas être surmontée par un surcroît de sciences et de techniques. Il faut un nouveau rapport à la nature qui suppose de le refonder sur, au fond, une nouvelle approche religieuse, une nouvelle base religieuse. Et donc c'est vraiment sa conclusion. Quel est le remède? Pour lui, il ne s'agit pas de changer de religion. Pour lui, les idées orientales ne peuvent pas s'imposer durablement en Occident. Bon, il a l'idée sans doute critiquable que les croyances sont conditionnées par l'histoire de chaque peuple et ne sont pas transposables. Bon, il met ça sous forme d'un doute, il ne l'établit pas vraiment. Il ne parle pas non plus d'un retour au paganisme, comme voudraient faire certains écolos. Si on divinise la nature, on va la respecter. Comme par exemple Alain de Benoît, qui lui aussi a traduit en son temps, en 93, cette conférence de Lynn White. Alain de Benoît, lui, veut faire un retour à un vieux fond celtique qui a fait l'Europe avant le christianisme. Il avait été rendu célèbre par un livre « Comment peut-on être païen ?» Donc je ne fais pas un mauvais procès. Plutôt qu'une nouvelle religion ou une religion d'origine étrangère, Lynn White privilégie une réforme de l'ancienne religion en partant du point où elle a fait fausse route. Il en appelle à un autre christianisme, mais un christianisme qu'il juge lui-même hérétique, celui de Saint François d'Assise. Voilà, pour lui, c'est ça l'hérétique. un grand révolutionnaire depuis le Christ qui voyait dans les créatures ses frères, ses sœurs, le fameux cantique Laudato si, avec un rapport de fraternité et de louange gratuite plutôt que de domination et de servitude. Et c'est donc la conclusion, la dernière phrase de cette conférence de Lynn White en 1966. Je propose François d'Assise comme saint patron pour les écologistes. Jean-Paul II l'a fait 13 ans plus tard par sa lettre apostolique Inter Sanctos, 29 novembre 1979. Mais la vraie réponse à Lynn White vient bien plus tard, 50 ans après, en 2015, par le pape François, dans son encyclique Laudato si, justement. Donc la réponse de Laudato si, eh bien, il y répond, mais il ne passe pas beaucoup de temps à se défendre de cette accusation antichrétienne ou anti-judéo-chrétienne. Le pape se contente de souligner que ce n'est pas une interprétation correcte de l'Écriture, de la Bible, comme la comprend l'Église. Cette domination, dont il est fait question, elle n'est pas absolue. Elle n'équivaut pas à une exploitation sauvage et destructrice. L'homme est appelé, dans le second récit, au contraire, à cultiver et garder le jardin, pas le détruire, le garder, le protéger, le servir. Le modèle de saint François, en revanche, privilégié par Lynn White, là, bien sûr, est le bienvenu. Ce n'est pas pour rien que le pape François a pris ce prénom, qui est tout un programme, et a choisi, pour sa première encyclique, ce titre, Laudato si, tiré du Poverello, prenant le cantique des créatures de saint François. Ce qui étonne davantage, c'est cette insistance chez Lynn White à vouloir que la science moderne soit le fruit naturel du christianisme, tandis que le franciscanisme serait une hérésie. Deux affirmations, c'est plutôt le contraire qui est vrai. D'abord, ce qui est de la science, l'Église a payé pendant longtemps suffisamment cher pour être accusée d'être contre la science. Et maintenant, elle serait responsable, elle, de la science. Bon, il faut savoir, il faut choisir. On ne va pas maintenant lui reprocher d'avoir donné naissance à la science moderne qui s'est plus, davantage, constituée en opposition longtemps avec l'Église. Ce n'est pas une opposition nécessaire non plus, évidemment. Et ce que ne voit pas Lynn White, en fait, c'est que cette domination qu'il reproche à la science moderne et qu'il pense tirer déjà de la Genèse n'est pas un fruit naturel du christianisme, mais il est plutôt la marque du péché. C'est un fruit pervers du christianisme. Et du judaïo-christianisme. C'est lorsque l'homme se détourne de Dieu qu'il en vient aussi à blesser sa relation au monde, sa relation à l'autre, sa relation à soi-même et sa relation à Dieu. Toutes les relations sont abîmées, y compris celles avec la création. Tu travailleras à la sueur de ton front. C'est lorsque l'homme n'est plus à l'écoute de Dieu qu'il vient à se faire guider par un esprit de tyrannie qui ne vient pas de Dieu, mais plutôt de l'adversaire. Ce qu'oublie encore aussi Lynn White, c'est que les totalitarismes modernes, qui nous rendent aujourd'hui allergiques à toute idée de domination, de toute puissance de Dieu, on préfère un Dieu faible, en fait, cela vient aussi du Moyen-Âge, oui, mais d'autres débats, des débats médiévaux sur la Trinité. Et là, l'école française a privilégié la toute-puissance divine, la liberté divine, sans plus l'ordonner à sa sagesse et à son amour. Alors que dans la théologie de saint Thomas ou d'autres, ça reste ordonné à la sagesse et l'amour. L'Écriture dit bien que Dieu a tout fait par sagesse et par amour, psaume 136, verset 5. Non seulement Dieu ne veut pas agir contre sa sagesse et amour, mais il ne le peut pas. Et ce n'est pas une limite, ce serait pour lui une forme de suicide spirituel que d'agir contre lui-même. L'école franciscaine, elle, a refusé cette limite à la toute-puissance au nom de la liberté divine. Et cette toute-puissance sans limite, cette toute-puissance désordonnée, qui n'est plus référée à la sagesse et à l'amour, elle, de proche en proche, a en effet été à la source des totalitarismes modernes. Alors, cette hérésie ne se trouve pas chez François d'Assise, mais bien dans la pensée franciscaine. L'école franciscaine n'est donc pas le remède, c'est plutôt la source du problème. Et la science moderne n'est pas le fruit du christianisme, elle s'est plutôt constituée en s'écartant de lui. Le remède est plutôt dans une puissance ordonnée, Dieu qui a tout créé avec sagesse et par amour, les deux mains du Père, comme dit saint Irénée, il a tout fait avec son Verbe et avec son Esprit, son Verbe de sagesse, son Esprit d'amour. Or, si l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il est non seulement dans son être, mais dans son agir. lui-même est appelé à agir avec sagesse et par amour. S'il est appelé par Dieu à dominer, il s'agit de dominer comme Dieu domine la création. Or, comment Dieu domine la création ? Avec sagesse et par amour, et non pas en tyran. Ici, en fait, saint François et Thomas d'Aquin tombent d'accord, et ce n'est pas pour rien que dans l'encyclique Laudato Si, le pape François fait appel aux deux, en fait, à ces deux géants de la sainteté et de l'intelligence chrétienne de la création, l'un de manière plus poétique, Laudato Si, l'autre de manière plus philosophique et théologique, Thomas d'Aquin. Mais tous deux sont théologiens. C'est en fait une réalité d'une doctrine commune fondée par l'Écriture. Et plutôt que d'opposer les deux, il faut montrer qu'ils ont la même vision du monde, largement commune à l'Antiquité et au Moyen-Âge, peut-être moins par les modernes, justement. Alors, Laudato Si est une encyclique. Hier, le frère Jacques-Benoît Rocher nous a présenté un parcours en trois étapes de doctrine sociale, si on retient juste ce dernier bloc, qui naît avec les temps modernes, avec Rerum Novarum, dans un nouveau contexte qui est celui de l'industrialisation, de la révolution industrielle. L'Église parlait de doctrine sociale avant, mais c'est un nouveau contexte, en effet, depuis 1891. Alors, j'ai aussi moi-même une lecture de ces différentes étapes, j'en retiens trois aussi, pas exactement les mêmes, ça ne contredit pas le frère Jacques Benoît, c'est un autre point de vue, celui de Laudato Si, justement. Partant de Laudato Si, je vois qu'il y a au fond trois étapes qui aboutissent à une troisième génération de doctrine sociale, d'encyclique sociale. Laudato Si n'est pas la première, en effet, on avait déjà Caritas in Veritate. Enfin, c'est la première qui soit intégralement sur l'écologie. Caritatis in Veritate, ce n'était qu'un chapitre. Donc, première génération répondait à la question ouvrière, les rapports patron-ouvrier, rapports nouveaux posés par la révolution industrielle, dans les usines, la relation entre le capital et le travail, la justice sociale, le droit d'avoir des syndicats. Deuxième génération, pour moi, correspond à la décolonisation des années 60. De jeunes États accèdent à l'indépendance, ça donne un nouveau cadre pour la justice sociale qui s'élargit de manière globale à l'échelle de la planète. Ce n'est plus le rapport patron-ouvrier, c'est le rapport nord-sud. Les patrons, c'est le nord, les ouvriers, le sud, en gros, enfin, pas seulement. C'est surtout aussi des nouvelles questions de développement humain intégral. Tout homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition, tout l'homme, selon ses besoins, non seulement matériels, mais aussi spirituels. Développement intégral. Et la dimension mondiale de la justice, qui réclame aussi des institutions, des autorités mondiales, pour régler ces questions de justice. On a cité aussi Jacques-Benoît Pacem in Terris, 1963. La troisième génération d'encyclique, donc qui ne démarre pas exactement avec Laudato Si, mais Laudato Si en est bien l'illustration, ajoute une dimension supplémentaire à la mondialisation qui n'est plus seulement géographique, mais aussi temporelle. Un nouveau type de justice sociale intergénérationnelle, le droit des générations futures. On n'en parlait pas trop, elle n'existe pas. Et pourtant, elles ont des droits. Il ne suffit plus de partager le monde de manière équitable entre différentes classes de la société, ou entre le Nord et le Sud, mais à l'intérieur même du monde, entre les différentes créatures, et aussi dans le temps, en comptant les générations futures. Et donc, on passe du développement intégral à l'écologie intégrale, ce qui peut conduire à remettre en cause le modèle d'une croissance perpétuelle, sans limite. En même temps, le point de vue est moins anthropocentrique, puisqu'on prend davantage en compte le point de vue de la planète, et non plus des rapports entre les hommes, mais aussi vis-à-vis, et pas uniquement les ressources, ce dont l'homme dispose, mais les créatures, en tant qu'elles existent pour elles-mêmes. C'est elle, la planète, désormais le nouveau pauvre, l'opprimé, qui crie justice face à la toute-puissance de l'homme globalisé. Un cri de détresse qu'il nous faut entendre. Les notions classiques de doctrine sociale, dignité, bien commun, solidarité, subsidiarité, sont revisitées, recyclées par une sorte de greenwashing, tel le bien commun, qui désormais comprend le climat, Laudato Si 23, mais aussi cette dimension intergénérationnelle du temps, le bien commun présent et futur, Laudato Si 135, 159, etc. La solidarité s'étend aussi à ces générations à venir, et ce qui est temps déplace d'autant plus les frontières de la charité. Mais elle s'étend aussi plus largement à toutes les créatures. sans tomber dans l'antispécisme qui nie la différence entre les espèces, qui nie la place spéciale de l'homme, l'homme seul être spirituel parmi les créatures terrestres. L'Église l'a rappelé récemment dans sa déclaration Dignitas Infinita sur la dignité humaine, 2024, 2 avril, numéro 28, qui cite Laudato Si encore, rappelle que l'homme seul est vêtu de cette dignité infinie. Lui seul est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, lui seul est appelé à vivre la vie divine. Et lui seul est considéré par le Christ qui prend la chair humaine. Il ne s'est pas fait papillon ou ver de terre. Pour autant, donc tout cela n'est pas le fait des autres créatures, pour autant les autres créatures ne se définissent plus seulement par rapport à l'homme, en vue de l'homme, au service de l'homme. Mais elles ont leur propre raison d'être par rapport à Dieu. Elles sont toutes des messages de Dieu, nous dit Laudato Si. Laudato Si 69, elles reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté. Nous y sommes encore, sagesse, bonté, infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses. Voilà, la tyrannie, l'usage désordonné, il est là. D'abord, considérer que ce sont des créatures de Dieu, qui sont des reflets de Dieu, des dons de Dieu. Ce n'est plus, à proprement parler, un anthropocentrisme. Même si le pape continue, bon, il est jésuite moderne, à vouloir sauver le mot anthropocentrique, alors il l'oppose à un mauvais anthropocentrisme. Il y a le bon anthropocentrisme et le mauvais anthropocentrisme. C'est comme les chasseurs, hein, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Enfin, voilà, là c'est l'anthropocentrisme dévié qui est mauvais, mais il y a un bon anthropocentrisme. En fait, non, il n'y a plus d'anthropocentrisme parce que l'homme n'est plus le centre. Le centre, c'est Dieu. L'homme est bien au-dessus des créatures, mais il n'est pas le centre. Le centre, c'est Dieu. Et l'Église appelle à redécouvrir la création comme don de Dieu. Confier à l'homme de manière spéciale, oui, il a une tâche spéciale au sein de la création, mais non pas comme un tyran qui fait ce qu'il veut. Si vous offrez un cadeau à votre épouse ou quoi, est-ce que, ah ben c'est à moi, j'en fais ce que je veux le piétiner, le mettre en morceaux. Non, la propriété ne suppose pas la destruction, mais plutôt, c'est un cadeau, la personne que j'aime, je l'honore. Si j'aime Dieu, je vais respecter ses dons. Je vais les servir. Et donc, il ne s'agit pas d'abuser en propriétaire, avec l'usus, l'abusus, le fructus, de la propriété, en maître absolu. Non, nous sommes des intendants qui devront rendre des comptes à la fin des temps. Nous sommes là au service de Dieu, comme des intendants, devant effectivement gérer la création, mais pour le compte d'autrui, et devant rendre des comptes. Nous sommes plutôt comme le grand frère des créatures, qui doivent les tenir par la main pour les conduire à Dieu. Jean-Paul II disait que l'homme est le berger de l'être. Belle formule qu'il reprend d'Heidegger avec un autre sens. Il me semble donc qu'en ajoutant ce nouveau chapitre écologique, la question écologique vient modifier radicalement la doctrine sociale de l'Église jusque dans sa définition. Ce n'est plus seulement une théologie morale, comme disait Jean-Paul II, mais cela intègre désormais la théologie de la création, la cosmologie, toutes choses qui font partie de la dogmatique. Et donc, on élargit encore ce qu'est la doctrine sociale. Un de nos frères dirait, c'est de l'ecclésiologie. Bon. Je vois aussi dans cette question écologique, un autre point, un marqueur de la fin de la modernité. Et c'est en cela aussi que ça m'a intéressé, la question écologique. Modernité que l'on définit souvent comme l'avènement du sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet avant, mais il n'avait pas une telle place. L'essor d'un nouvel humanisme, pareil, il y avait d'autres humanismes, mais pas les mêmes. Mais du point de vue écologique, on peut caractériser la modernité plutôt par un anthropocentrisme radical. Et ça, c'est juste, c'est ce que retient Lynn White. Cela a conduit à un essor remarquable de la science, une conquête sans précédent du savoir, de la technique, mais pour faire parfois du monde un grand jardin à la française. Alors on peut aimer, mais enfin, c'est en fait modeler toute chose par la raison humaine, et qui fait parfois bien, mais pas aussi bien que la raison divine. Et la prochaine étape, ce sera de façonner l'homme lui-même de la même manière, dans le transhumanisme. Avec son projet d'homme augmenté, le transhumanisme ne fait que pousser jusqu'au bout ce projet de la modernité, la maîtrise de l'homme par lui-même, sans frein, sans barrière, se libérer de toute entrave, la dernière étant la nature, dernière prison dont il faudrait s'affranchir. Oh, on ne la nie pas, elle existe, mais on va faire mieux qu'elle. Et ce faisant, on prend la place du Créateur. La question écologique oblige, au contraire, à reconnaître qu'il y a un ordre naturel des choses, que le cosmos est porteur d'un logos, une parcelle d'intelligence divine dont elle est le signe, et un logos dont on tire un nomos, une loi, une règle, un art de vivre, en s'accordant à l'ordre de l'univers, une sagesse. Le droit naturel antique, le jus naturale, reconnaissait ainsi un ordre naturel des choses dans les choses elles-mêmes, dans des justes proportions qui s'établissent entre les hommes au sujet de leurs biens extérieurs. Le cosmos contient un logos dont on tire un nomos. Le droit naturel moderne ne voit plus la source du droit que dans le sujet. Et il y a là, effectivement, un rétrécissement individualiste, déjà. Un recentrement sur le sujet. Mais on perd le cosmos comme une source de droit. L'idée d'un cosmos ordonné comme source de droit et de moralité. Ainsi, Hume oppose fermement être et devoir être, is and out. L'ontologie se sépare de la déontologie, l'ontique de l'éthique. Le droit naturel ne sera plus tiré de l'ordre des choses, ni la loi naturelle commune aux hommes et aux animaux, mais seulement de la nature humaine. Anthropocentrisme moderne. La postmodernité ne croit même plus dans cette nature humaine comme source de droit. Oh, elle ne la nie pas, mais elle entend la dépasser. Gregor Pupink a montré, à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y a une troisième génération de droits de l'homme qui se prétend supérieure aux autres, d'autant plus supérieure qu'elle est contraire à la nature. On ne nie pas les droits précédents qui sont les droits de l'homme fondés sur la nature humaine et sur la nature sociale de l'homme, la déclaration de 1948. Mais cette nouvelle génération qu'on promeut, elle est supérieure parce qu'elle n'est plus naturelle. Parce que justement, la nature, c'est cette dernière prison dont il faut se libérer dans ce projet de toute puissance humaine. C'est un choix résolu de s'opposer à la nature pour faire mieux qu'elle. En ce sens, le grand débat du siècle me paraît être celui-là, ou bien l'écologie, ou bien le transhumanisme, ou bien le refus de toute limite comme une entrave insupportable à la liberté souveraine et à la toute-puissance de l'homme, ou bien l'acceptation des limites comme l'expression d'une sagesse infinie inscrite dans la nature des choses et qui dépasse l'homme. Une loi dans les choses dont l'homme n'est plus la source mais simplement le témoin privilégié. Une loi qu'il doit s'efforcer de reconnaître et d'accueillir. Écologie ou transhumanisme, il faut choisir. Pour finir, peut-être dernier point, de critique terminologique. On parle de nature, d'environnement, de création. Quel est le mieux ? Le concept de nature n'est pas forcément le plus adéquat, trop polysémique, entre un sens ancien, qui est souvent mal compris, un sens moderne, qui a peut-être trop partie lié justement avec ce paradigme technocratique. L'encyclique Laudato Si invite à lui préférer le concept de création ou d'environnement. Laudato Si 76, pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec le projet d'amour de Dieu, dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend, se gère, mais la création peut être seulement comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Et puis, à propos de l'environnement, Laudato Si 139, quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous, comme un simple cadre de vie. Nous sommes inclus en elle, nous sommes une partie, nous sommes enchevêtrés avec elle. Alors là, je ne suis pas très d'accord, en fait, parce que pour moi, le mot environnement reste extérieur. L'environnement, c'est ce qui vous environne, donc ce qui est autour de vous. Mais vous n'êtes pas forcément dedans. En fait, c'est le décor. Et il me semble que ce concept d'environnement souffre encore d'un certain anthropocentrisme. L'environnement, c'est ce qui est autour de moi. C'est anthropocentrique. ce qui m'entoure comme étant extérieur à moi, étant pensé à partir de moi, c'est moi la référence, et non pas une réalité à laquelle j'appartiens intégralement. En qualifiant le monde d'environ, on l'assigne aux périphéries de l'humanité, dans les banlieues de l'être. Et nous restons le point de référence au centre. Nous y sommes placés, comme dans un jardin, un beau paysage, mais sans faire partie du décor. C'est ce qui nous environne. Et il me semble que seul le concept de création est pleinement adéquat. Parce que lui seul nous décentre véritablement, en plaçant l'homme comme une créature parmi tant d'autres. Et la vraie frontière, elle n'est plus entre l'homme et le reste, mais entre la création et le créateur. Et l'homme, lui, il est du côté de la création à ce moment-là, avec les autres. Alors il n'a pas la même place que les autres, il est peut-être au-dessus des autres, mais n'est pas en dehors des autres. Il fait partie de la création, comme toutes les créatures. Et cette commune origine, cette commune appartenance, n'implique pas une indifférenciation, comme le voudrait l'antispécisme. Puisque l'écologie est faite de biodiversité, et une biodiversité aussi au plan qualitatif. Le monde est fait d'un règne minéral, d'un règne végétal, d'un règne animal, et aussi d'un règne spirituel. Et l'homme est particulier en ce qu'il est à l'horizon du monde visible, corporel, et du monde invisible, spirituel. Ce monde visible, spirituel, qui contient aussi les anges. Les anges font partie de la création. Vous voyez, on n'est plus au centre. Non, non, on est à l'horizon de deux mondes. Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Ils sont là, les anges, le ciel. Puis ensuite, on parle que de la terre. On oublie qu'il y a un ciel d'abord, les anges. Et l'homme était entre les deux, justement, cet horizon du visible et de l'invisible, du corporel et du spirituel. C'est ce propre de l'homme. Mais du point de vue du monde spirituel, c'est la plus débile des créatures. Et l'ange est supérieur. Alors, pas en tout point, parce que l'ange ne travaille pas la terre comme l'homme, justement. Ce en quoi l'homme est à l'image de Dieu. Donc l'homme est non pas au centre de la création, mais dans la création et en vis-à-vis avec le créateur, mais avec une place spéciale. La différence fondamentale, c'est le créateur. Dans le récit de la création, l'homme n'est pas le premier à entrer en scène, mais plutôt le dernier. Et en général, on en tire agrément pour dire c'est lui le plus important, tout ce qui vient avant est en vue de l'homme. Mais on oublie qu'après le 16e jour, il y a un 7e jour. Peut-être que tout est en vue de l'homme, mais l'homme en vue de Dieu. Pour que l'homme se repose en Dieu. Notre cœur n'a pas de repos tant qu'il ne repose en toi. 7e jour, Shabbat. L'homme va shabbater. Donc il y a cette venue, d'abord dans une œuvre de distinction, qui met en place le décor du règne minéral, le ciel, la terre, la lumière, les ténèbres, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Et puis ensuite l'œuvre d'ornementation, où on place les différents vivants dans ce décor. D'abord les végétaux, qui vont verdir la terre de verdure, et puis les animaux, qui peuplent d'abord les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les poissons et les oiseaux, et puis ceux qui rampent sur la terre, le 6e jour. Parmi ceux-là, les hommes, qui ont une place spéciale, en effet. Alors, ayant achevé l'œuvre de ses mains, au 7e jour, Dieu se reposa. Et l'homme est appelé à se reposer en Dieu. Tu honoreras le Shabbat. L'homme a donc cette place spéciale dans la création. Cet ordre poétique, symbolique, nous dit quelque chose de très profond. C'est le langage de Dieu, mais adapté aux hommes, ça nous parle. Il nous dit quelque chose de la place de l'homme dans l'univers, mais aussi de la place de la création dans le projet de Dieu, à condition de ne pas le lire de travers. Donc tout ce qui précède n'est pas là uniquement pour préparer la venue de l'homme, comme si tout était fait pour lui. Avec cette idée, emplissez la terre, soumettez-la, dominez les poissons, les animaux, ben voilà, c'est pour moi, j'en fais ce que je veux, donc je peux l'écraser, le tyranniser, comme Pharaon va dire au peuple d'Israël, briquetez des briques. Non, ça c'est l'œuvre du péché. Et c'est oublier que si chaque créature est en vue de l'homme, en fait, elle est aussi en vue de Dieu, et l'homme lui-même est en vue de Dieu. Et l'homme est en vue, et l'homme est là placé pour ramener tout la création à Dieu, comme une œuvre pastorale, comme le grand prêtre, le prophète et le roi de l'univers, mais pour le compte de Dieu. Il est davantage le lieutenant de Dieu sur terre, celui qui tient lieu pour la création et qui est là pour œuvrer comme un intendant. Donc l'homme est responsable devant Dieu de cette bonne croissance du jardin, dont Dieu dit à chaque étape que les éléments en sont bons, Cette bonté ne dépend pas de l'homme, elle lui est confiée par Dieu pour la faire fructifier, en s'opposant aux forces mystérieuses des ténèbres, que Dieu a séparées dès les premiers jours, en séparant la lumière des ténèbres, mais qui restent tapis dans l'ombre. Alors je dois finir. L'homme est donc investi avant tout comme le gardien du jardin, le protecteur de la nature, l'intendant des dons de Dieu. Mais toutes les créatures sont créées immédiatement par Dieu. Elles ont toutes un reflet de la sagesse et de la bonté de Dieu. Peut-être aussi nous dit qu'elles sont toutes un message divin. Et si l'une disparaîtrait, il manquerait quelque chose à la création, parce que c'est une parole de Dieu qui disparaît. La Bible nous met cela aussi en prière dans de nombreux psaumes de louanges, psaume 19, 96, 98, 104, 148, ou finalement dans le cantique des trois enfants qu'on chante tout le dimanche, où les créatures sont énumérées les unes après les autres dans l'ordre même de la Genèse, et toutes sont appelées à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur. Elles ne sont pas là pour louer l'homme. Toutes sont appelées à louer le Seigneur, y compris l'homme. L'homme est donc à sa place dans l'univers, en queue de procession liturgique des créatures, intronisé grand prêtre du temple cosmique, mais il prend à sa suite la tête du cortège pour conduire celui-ci jusqu'au Créateur. Le centre, c'est Dieu. Et le second récit de la création met en scène Dieu aussi comme ce potier qui modèle l'homme avec la glaise du sol. C'est dire toute une attention personnelle que Dieu prête à l'homme. Saint Irénée suggère ici que Dieu prend modèle déjà sur le Christ, que d'avance il fait Adam, le premier Adam, d'après le modèle du nouvel Adam, le Christ. Et on est formé à son image, déformé par le péché, reformé et conformé par le Christ. Mais cela signifie aussi que l'homme est tiré du sol dont il conserve la commune origine. La Adama, en hébreu, cette terre rouge, Adam, qui renvoie au nom de Adam. Et c'est là que nous voyons que l'humilité vient de humus, le sol, c'est être proche du sol, eh bien ça peut être la première vertu écologique, le commencement de la sagesse. Je vous remercie.